Oui, Pascal Senzoff, moi je suis de l'Académie de Reims, je suis chargé de mission académique pour l'éducation prioritaire.
Claire Burdin, formatrice à l'ESPE de Nantes. Et alors du coup, c'est beaucoup plus modeste hein, comme objet. On a vraiment pris l'exercice comme un exercice. Hein, donc l'objet est beaucoup plus modeste. On n'a pas mis en place, on n'a pas travaillé sur un gros dispositif de formation. C'était peut-être un peu plus, enfin, voilà, plus petit. En fait, du coup, bon, on va parler en fait d'un atelier qui, comme je vous l'ai mis sur la première page, pardon, qui s'appellerait S'entretenir avec les parents pour favoriser la coéducation. Et donc cet atelier, c'est un petit atelier au sein d'un colloque santé qui dure une journée. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, qui fait partie du tronc commun de la formation des futurs professionnels de l'école, qui est aussi ouvert à d'autres personnes, mais qui, en grosse majorité, ce sont des étudiants qui vont être présents dans ces différents ateliers. Le thème général du colloque, c'est la coéducation, communication, collaboration, école-famille, quel lien avec le bien-être des élèves et la réussite scolaire, vaste programme. Donc il y a une espèce de plénière le matin, et donc l'après-midi, les étudiants ou les autres personnes présentes viennent s'inscrire dans différents ateliers l'après-midi. Et donc voilà, moi j'ai eu comme commande, donc c'est des étudiants de première année de master qui préparent le concours de professeur des écoles, de professeur de collège et lycée, de CPE. Voilà, sachant que moi, l'atelier en lui-même, il est destiné au second degré, aux enseignants et aux CPE du second degré éventuellement, sachant que voilà, il y a un certain nombre de choses. Alors la commande, ça a été, est-ce que tu veux bien proposer un atelier autour de l'entretien avec les parents dans le second degré? C'était la commande qui avait été passée. Il y a d'autres collègues qui interviennent sur des propositions qui concernent le premier degré. Donc là, c'était plutôt orienté second degré. Les moyens, alors on a repris les grilles, voilà, on a utilisé les grilles qui nous étaient proposées. Hein, donc les moyens à disposition, c'est une salle avec vidéoprojecteur, rétroprojecteur, haut-parleur. Le négociable, la liberté pédagogique de faire ce qu'on veut dans cet atelier. Le non négociable, c'est environ 20 personnes dans le groupe et un temps très contraint d'1h30. Donc si vous voulez, voilà, c'est pas, on n'était pas sur quelque chose de... on n'est pas sur un temps long, on est sur un temps très court. Et comment, dans un temps très court, traiter cette question pour qui d'autres personnes vont faire une formation de 3 jours ou d'une semaine. Voilà. Donc je passe la parole à Pascal. Et du coup, sur l'aspect juste de... Plutôt sur la partie...
Je mets tout.
Sur la question justement d'interroger les problèmes et quel est le problème. Parce que du coup, c'est bien que ce soit Pascal qui prenne la parole parce que c'est bien parce que c'était lui qui était là qu'on a questionné un peu plus voilà, l'importance de l'interaction entre pairs pour pouvoir justement questionner l'évidence.
Quel problème pour l'institution? Donc on a pensé que c'était peut-être pour l'institution un moyen de travailler avec les parents pour un meilleur accompagnement tout au long de l'année, et voire même tout au long de la scolarité. Mais comment faire pour que ce temps soit un temps d'écoute et de conseil plutôt qu'un temps unique de constat, comme on le voit souvent dans les relations parents-enseignants? Où moi je l'ai vécu en tant que parent, voilà, l'enseignant nous fait le constat de ce qui va ou de ce qui va pas, et on va souvent pas plus loin. Pour les élèves, quelle interaction entre l'école et la sphère privée, c'est-à-dire faire comprendre, faire voir aussi aux élèves que voilà, il n'a pas qu'un statut d'élève, il est un enfant tout le temps, et qu'il y a une interférence, il y a quelque chose qui se passe entre ce qu'il vit à l'école et ce qu'il vit à l'extérieur. Pour les enseignants, comment écouter les parents? Comment faire de ce temps d'entretien un temps qui coûte moins, alors qui coûte en termes d'investissement, je veux dire personnel, en termes d'engagement éthique, et qu'il soit plus efficace? Comment faire passer des messages de progrès, donc tout ce qui peut être lié au conseil? Et pour ça, il faudrait avoir aussi déjà bien déterminé les problèmes que peut avoir l'élève, ou non. Mais ce qui n'empêche pas de le faire progresser quand même. Comment adapter le langage? Alors, comment adapter le langage? Parce que comment s'adresser aux familles? Moi, personnellement, je fais partie d'ATD Quart-Monde en tant qu'allié, donc je travaille sur des universités populaires. Et l'écart qu'il y a dans les expressions, dans les perceptions des mots, dans les compréhensions, des projections qu'on peut faire derrière des mots, est immense, dans les deux sens. De ce que nous, on peut comprendre de certains parents, qui n'est pas forcément ce qu'ils ont voulu dire, ou ce que les parents peuvent comprendre de ce que l'on dit. Comment expliciter notre activité aussi, Comment faire passer une information douloureuse en restant bienveillant, tout en restant exigeant et réaliste. Quelle place de l'élève dans l'entretien? Ça, c'est une question aussi qu'on s'est posée. L'enfant est-il présent lors de cet entretien? Absent? Deux temps? Un temps avec, un temps sans? Et quelle écoute de la parole de l'enfant à partir du moment où on l'accepte dans l'entretien? L'écoute de la part des parents, mais aussi de notre part en tant qu'enseignant. Quel est le problème pour le formateur? Sensibiliser les apprenants, donc les stagiaires, aux freins et aux leviers possibles pour mener un entretien efficace, et qui rejoint un petit peu les problématiques de l'enseignant avant.
Alors, sachant que les problèmes qui sont posés là, éventuellement, enfin, ce qu'on nous, on a posé sur le papier en disant ça peut être des problèmes pour les enseignants, c'est évident, c'est pour l'instant, c'est des questions que nous, on a projetées, voilà, à partir de notre échange à tous les deux, hein, sur un atelier d'une heure et demie, on va pas, on n'a pas la possibilité, enfin, en tout cas, on va pas prendre le faire un questionnaire en amont pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les gens. Même si, c'est, dans le cadre d'une formation plus longue, on aurait fait ça. Mais la contrainte d'un atelier d'une heure trente, ça veut dire qu'aussi, on va pas faire un questionnaire en amont. Donc là, on a projeté des questions qui pourraient être leurs questions. On va voir après dans la construction que on va essayer quand même d'avoir un petit peu un relevé des besoins dans un temps très contraint. Je continue.
Je voudrais juste rajouter à propos d'un problème pour le formateur ou peut-être pour les stagiaires, c'est le fait aussi que là ce sont des étudiants en M, je ne sais plus combien d'ailleurs.
M1 ou M2.
M1 ou M2. Pour qui il y a de fortes chances ou risques, on ne sait pas comment on voit les choses, qu'ils ne soient ni enseignants, certains ont fait des stages mais ne sont pas forcément encore enseignants, et ni parents. Donc ils ont aussi des projections et on va voir que ça va nous amener à une activité après. Alors dans la construction, les buts à poursuivre, c'est d'outiller les professionnels, donc là les stagiaires, pour faire de l'entretien un acte professionnel, c'est-à-dire qu'on dépasse cette dimension d'un simple entretien d'adulte à adulte ou d'un enseignant qui surplombe un parent, ou l'inverse, hein, qu'un enseignant se laisse surplomber par un parent. Et là, vraiment être dans une posture professionnelle, donc quelque chose de préparé, quelque chose de réfléchi, quelque chose de constructif. Sensibiliser à l'accueil, à l'écoute. Alors l'accueil, c'est très important. Il y a aussi l'aspect de l'organisation de l'espace dans lequel se déroule cet entretien. Prendre en compte les besoins des participants, donc là des stagiaires, hein, donc les tâches à leur faire faire. Alors c'est là où j'arrive sur leur représentation qu'ils pourraient avoir. Alors il n'y a qu'une heure trente, hein, donc ça va vite.
Très court.
Donc leur proposer de faire, d'utiliser les post-it
avec deux
couleurs différentes. Un pour des aspects plutôt positifs, un autre pour
quelles sont vos attentes,
des parents. Donc les attentes parents, attentes en tant qu'enseignant. Donc à partir de leur expérience et de vidéos, des extraits de la rencontre des extraits de rencontres d'enseignants parents, donc là pour amener le réel, hein, le réel qui pour certains ne connaissent pas encore, identifier les freins, les leviers pour que l'entretien se passe au mieux. Ensuite élaborer collectivement. Là, c'est leur faire construire un outil, élaborer collectivement une sorte, alors pas un guide, pas une grille, mais comment démarrer un entretien, comment conduire un entretien, sachant que c'est dans un temps limité. Parce que je pense aussi que dans les entretiens avec les parents, faut veiller au temps que l'on passe lors de cet entretien. Je me suis souvent aperçu que au bout d'un certain temps, on répète, on tourne en rond, on dit différemment les choses, que ce soit de la part du parent ou de la part de l'enseignant. Et voilà, ça prend beaucoup de temps alors qu'on n'avance pas davantage.
Donc, un travail autour des vidéos, quel frein, quel levier, et puis élaboration de conseils. Donc là, les tâches, elles sont, c'est fini, quoi. En 1h30, on fait ça. C'est-à-dire que les vidéos, elles durent à peu près... c'est deux petites vidéos de 5 minutes chacune. Et donc, du coup, à partir de ces vidéos, c'est des vidéos d'entretien plutôt qui ont lieu lors de remise de bulletins. Et donc... identifier en groupe les freins leviers et puis cette espèce de petit guide. Donc, on a rajouté, hein, on essaye avec les vidéos d'amener le réel et avec les petits conseils à élaborer, d'amener de formaliser un espèce d'outil. Ensuite, alors les formes de médiation, c'était plus difficile pour nous, mais voilà. La médiation, dans la construction, ce qui va faire médiation pour faire travailler un petit peu aussi le groupe, c'est les interactions évidemment dans le groupe et les interactions avec la formatrice, le support vidéo. L'idée est qu'à la fin, quand même, ils repartent avec un document ressource. Qui n'est pas complètement finalisé, avec que dit le référentiel de compétences sur les échanges avec les familles, avec l'objectif de faire connaître la prescription. Quelques éléments peut-être sur les postures, type les postures rogériennes sur la bienveillance, l'empathie, la considération positive inconditionnelle, sur le non-jugement, enfin peut-être des petits trucs comme ça. Et puis peut-être un exemple de travail en collège sur les remises du bulletin. On pensait à l'expérience qu'Antoine nous a présentée hier, par exemple. Ça pourrait être un exemple de ce qui se passe dans un établissement qui réfléchit sur les remises des bulletins, par exemple. Donc quelque chose qui est un peu plus concret. Au niveau des outils, on a le relevé des attentes et des représentations avec les post-it, l'analyse des vidéos sur transparent pour la restitution. Donc là, pour éviter de galérer à récupérer les supports de chacun, évidemment, on utilise un outil qui vient d'un autre siècle, le transparent avec le stylo, qui nous permet donc de scanner ça et de le garder après en PDF ou alors de le rétro-projeter. C'est formidable, c'est très technique. Et puis du coup... Il y a la synthèse collective sur la question des conseils. Elle peut être éventuellement élaborée en groupe, en direct, sur ordi, avec vidéoprojection, enfin voilà, par rapport aux outils. Non, pardon.
Alors bien sûr, pour la préparation de cette formation, il y a des choses à prévoir et qu'il faille définir. Donc la constitution du groupe et l'enrôlement dans l'activité. Donc là, les 20 personnes, comment on va s'organiser. Être en capacité d'accompagner la réflexion des groupes. Évoquer le fait qu'il n'y a pas une bonne pratique, mais l'importance de la réflexion sur le sens qu'on donne à ce temps d'échange, hein, c'est-à-dire que c'est à eux, c'est nous qui allons construire quelque chose. Et surtout, la grosse problématique là, sur 1h30, c'est de pouvoir, en voulant faire tout ce qu'on vient d'annoncer, gérer 1h30. Donc les interrogations sur les ressources théoriques nécessaires, donc en préalable, avoir abordé, alors ça c'est vu hein, dans le contexte...
On espère que ce sera bien prévu dans l'intervention plénière du matin, en préalable.
Donc, ça c'est un risque, sûr. le fait que cette problématique ait été abordée le matin. En aval, repartir avec un document ressource élaboré donc par la formatrice sur... Alors là, je comprends plus très bien.
Oui, c'est ce qu'on a déjà dit, en fait. C'est le doc ressource, voilà. Aussi. Et puis avec aussi les synthèses des travaux du groupe, évidemment, en plus du doc ressource.
Alors bien sûr, vérifier que le matériel fonctionne, l'ordinateur, la vidéo, mais aussi le rétroprojecteur, parce que là, je ne sais même pas si là où tu iras, il y en aura. Identifier les passages à risque. Alors, quand on questionne sur les attentes des parents, ne pas attendre trop, surtout chez des étudiants qui ont des représentations certainement assez éloignées de celles qu'on peut avoir, nous, sur le terrain. Et puis, voir aussi, s'attendre à ce que les représentations qu'on peut imaginer, nous, avant de faire la demande, soient complètement décalées par rapport à ce qu'on s'attend. Et puis, un autre passage à risque, c'est la transition entre les différents moments. 1h30, il y a peu de temps, il faut que ça aille vite, tout en gardant une cohérence et sans que ce soit non plus perçu comme une course d'obstacles hyper rapide à faire.
Je ne sais pas si c'est forcément des choses qui sont très connues dans le milieu enseignant, ces aspects-là. Après, dans les métiers du soin, dans les métiers de l'éducation spécialisée, dans le travail social, c'est des choses qui sont plus connues. Et ce sont des métiers où on a l'habitude de pratiquer l'entretien, notamment l'entretien d'aide. Alors c'est plutôt des postures qui sont liées à l'entretien d'aide, en fait. C'est pas, si c'est pour recevoir les parents, pour faire un entretien de recadrage par rapport à l'obligation scolaire, par exemple, on va pas être forcément dans ce type d'entretien. On sera pas dans un entretien d'aide, mais dans les entretiens d'aide, c'est vrai que être sur une phase, se mettre en position d'écoute. Alors on parle souvent d'écoute active, se mettre dans une position d'écoute active, et puis penser en effet à une posture empathique, à être surtout dans le non-jugement et être dans l'accueil un petit peu. Si je transfère l'éducabilité de Mérieux à ce type d'entretien, chez Rogers, il parle de considération positive inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on va accueillir les personnes telles qu'elles sont, en envisageant aussi de les recevoir de manière positive et pas en portant un jugement préalable sur ce qu'elles sont, sur la façon dont elles élèvent leurs enfants ou sur la façon dont elles leur donnent pas 5 fruits et légumes par jour.
Après, il y en aura peut-être d'autres. Là, c'était un des trucs. Voilà, c'était quelques pistes, mais il y aura peut-être d'autres choses. Mais en attendant, celle-là, ça faisait partie des choses, en tout cas sur la relation, enfin dans l'entretien d'aide, qui peuvent être, à mon avis, intéressantes. Voilà, Carl Rogers, il a travaillé avec des criminels, entre autres dans les prisons. Il était psychiatre. Il travaillait avec des criminels en partant du postulat que même chez des gens qui avaient commis des choses atroces, il y avait quelque chose de positif à aller chercher. Alors, il se trouve que je vais rencontrer l'intervenante qui intervient le matin vendredi prochain. Donc, du coup, ça va me permettre. Et puis, je vais faire une courte intervention sur la plénière aussi. Donc, du coup, ça va me permettre de maîtriser mieux les contenus du matin. Enfin, en tout cas, d'avoir déjà un peu entendu parler avant de faire l'atelier. Après, c'est vrai que l'identité professionnelle des personnes, elle va se construire différemment en fonction de s'ils ont l'habitude d'une confrontation à l'altérité différente. C'est vrai que selon le parcours de nos étudiants ou nos parcours aussi personnels, on a construit aussi un rapport à l'autre et à la différence qui va être très singulier. Et très, du coup, ça va donner aussi des impressions très subjectives. Mais dans les débats qu'on a pu avoir aussi, alors je regarde Xavier parce qu'on en a reparlé là par rapport à ce que c'est que la réussite éducative, ce que c'est que la réussite pour un parent, est-ce que c'est que la réussite pour l'école. On a beaucoup débattu aussi sur ces... Enfin, on a un peu débattu sur ces questions-là, on n'était pas forcément toujours d'accord entre ce que pense être la réussite pour un enfant, enfin, du point de vue de la famille, du point de vue de l'école, et encore du point de vue de l'élève, c'est trois choses différentes. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut peut-être créer un espace interculturel entre tout ça.